France Inter.
Le journal Alexis Borel, bonjour.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Une centaine de gendarmes de retour au Haut-Vernay après la découverte d'ossements du petit Émile dans un secteur qui avait été inspecté plusieurs fois depuis juillet dernier. On fera le point sur le tournant que peut prendre l'enquête désormais. Nous serons aussi en Turquie où l'on s'interroge ce matin. Est-ce le début de la fin du règne d'Erdogan? Le parti du président balayé au municipal, Istanbul, Ankara, Izmir reste aux mains de l'opposition.
Et comment expliquer cette défaite alors qu'il y a un an, Erdogan triomphait à la présidentielle? Dans 20 minutes, analyse du politologue turc Ahmet İnsel.
Dans ce journal aussi, les cliniques privées très remontées, leurs tarifs augmentent à peine, les anciens imams détachés doivent désormais devenir salariés, et puis en Grèce, une visite à l'Acropole coûtera bientôt plus cher qu'à Versailles.
Dans les Alpes de Haute-Provence, le hameau du Haut-Vernay est à nouveau coupé du monde.
Barricadé par la gendarmerie après la découverte ce week-end d'ossements appartenant au petit Émile, 2 ans et demi, disparu en juillet dernier. Les recherches reprennent donc dans la zone escarpée où a été retrouvé notamment le crâne de l'enfant, Sarah Guibaudot.
La route qui mène au Haut-Vernay est de nouveau fermée. Une centaine de gendarmes étaient à pied d'œuvre hier sous la pluie et dans le froid pour continuer les recherches dans les sous-bois près du chemin où une promeneuse a découvert le crâne de l'enfant. Il faut tenter de retrouver d'autres restes et les vêtements d'Émile, à moins que le corps n'ait été déplacé par les intempéries, un animal ou une intervention humaine. La question se pose d'autant plus que cette zone avait été fouillée depuis le 8 juillet. À Pontoise, dans les laboratoires de l'IRCGN, les experts de la gendarmerie tentent, eux, de faire parler les premiers ossements expédiés samedi. Ils ont d'abord prélevé de l'ADN pour identifier le corps. Ils cherchent maintenant d'éventuels lésions qui pourraient indiquer les causes de la mort. Toutes les hypothèses restent ouvertes, mais après près de 9 mois d'investigations infructueuses, auditions et perquisitions des habitants, recherche de milliers de téléphones ayant borné dans les environs, les gendarmes et les juges d'instruction ont désormais des éléments matériels à exploiter.
Cette nouvelle déchirante était redoutée, ont réagi hier les parents d'Émile via leur avocat. L'heure est au deuil, au recueillement et à la prière, dit encore la famille du petit garçon. Alerte extrêmement grave. Quittez votre logement. Voilà le message qu'ont reçu hier soir des habitants de Chinon en Indre-et-Loire. Tout un quartier forcé d'évacuer préventivement face à la montée des eaux. 750 résidents potentiellement concernés selon la préfecture, alors que la rivière Vienne a atteint son pic dans la nuit, équivalent à la précédente crue de 2007. Le département est toujours en vigilance rouge ce matin. Dans celui voisin de la Haute-Vienne, un kayakiste est toujours recherché. Le ministre de l'Intérieur annonce une procédure accélérée de reconnaissance de catastrophe naturelle.
C'est peut-être un point de bascule en Turquie.
En tout cas, un coup très dur pour le président Erdogan. L'opposition remporte largement les élections municipales en conservant les plus grandes villes du pays et en se payant le luxe d'en rafler d'autres à l'AKP, le parti présidentiel. France Inter à Istanbul, Marie-Pierre Véraud.
C'est la pire défaite pour Erdogan en plus de 20 ans de carrière politique. Il n'a pas réussi à reconquérir Istanbul, sa ville. Une humiliation. Le maire sortant İmamoğlu l'emporte largement sur le poulain du président. Plus d'un million de voix de différence. Et gagne de nouveaux quartiers, s'assurant une large majorité pour gouverner la métropole. İmamoğlu, grand vainqueur, alors qu'il partait cette fois-ci sans le soutien du parti kurde, qui présentait ses propres candidats. Il a fait la preuve qu'il peut gagner seul Istanbul, mais aussi Ankara, Izmir, Antalya, Adana. Les plus grandes villes du pays sont aux mains de l'opposition. Le président Erdogan n'a eu d'autre choix que de concéder la défaite de son parti. Jamais l'AKP, sa formation, n'avait enregistré un score aussi faible au niveau national. Le parti d'Erdogan a perdu toutes les villes qu'il dirigeait dans l'ouest de la Turquie, près de la mer Égée. Les partisans de l'opposition veulent croire que c'est le début de la fin de son règne. Istanbul, Marie-Pierre Véraud, France Inter.
C'était une promesse phare de la coalition menée par Olaf Scholz. Ce matin, la consommation récréative de cannabis devient légale en Allemagne, sous strict encadrement cependant. 25 grammes de cannabis séché par personne dans les lieux publics, 50 à la maison. Il n'est pas possible d'en acheter dans un magasin spécialisé, mais uniquement d'en cultiver soi-même ou de s'en procurer auprès d'une association. Après 2 semaines de siège, l'armée israélienne commence ce matin, selon l'AFP, à retiré ses chars de l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de Gaza. Le ministère de la Santé du Hamas dit avoir découvert sur place des dizaines de cadavres et des dégâts matériels très importants. Tandis qu'à Jérusalem, des milliers d'Israéliens ont manifesté hier soir devant le Parlement pour le deuxième soir consécutif. Familles d'otages retenus à Gaza et militants anti-gouvernementaux qui réclament tous le départ du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Certains ont affronté la police.
France Inter 6h05, la colère des cliniques privées en France.
Car le gouvernement a dévoilé la semaine dernière l'évolution des tarifs hospitaliers. En clair, ce que la sécurité sociale est prête à payer pour un acte de soins. Et l'hôpital public sort grand gagnant avec 4,3% de revalorisation des tarifs contre seulement 0,3% pour les cliniques. Très remonté, le secteur privé fait maintenant planer, Victor Dolande, le risque de fermeture d'établissement.
Les prévisions du secteur sont alarmantes. Une clinique privée sur deux pourrait être en déficit à la fin de l'année. Les directeurs de ces établissements redoutent de devoir fermer des services de maternité, des urgences. Lamine Garbi, président de la Fédération de l'hospitalisation privée, ne comprend pas ces différences de traitement entre le public et le privé.
L'hôpital public aujourd'hui est incapable de retrouver une activité normale versus 2019. Donc sans nous, il ne peut pas fonctionner. Il ne se passe pas une journée sur l'ensemble des territoires où l'hôpital public n'a pas pas à l'aide les cliniques aux alentours pour prendre des patients aux urgences. Je suis absolument scandalisé et je demande que le gouvernement revoie immédiatement sa copie.
En Occitanie, les cliniques privées ont d'ores et déjà arrêté de renseigner le nombre de lits disponibles à l'Observatoire régional des urgences. Le public a besoin du privé, assure Nathalie Coutinet, enseignante-chercheuse en économie de la santé à l'Université Sorbonne-Paris-Nord, mais pas à n'importe quel prix.
Le système est organisé de telle manière que le système privé est indispensable à l'organisation des soins. Les représentants des cliniques le savent et donc utilisent cet argument pour faire pression sur le gouvernement. Néanmoins, est-ce que économiquement ou en termes de rentabilité, il est justifié d'aligner les tarifs des cliniques privées aux hôpitaux publics ? Non, absolument pas.
Les cliniques privées vont continuer à mettre la pression sur le gouvernement. Des actions sont d'ores et déjà en préparation pour les prochains jours.
Ce 1er avril est une date couperet pour les imams détachés, ceux qui étaient envoyés en France et rémunérés par des pays étrangers. La pratique est désormais interdite pour lutter contre le séparatisme islamiste. Et à partir d'aujourd'hui, les 300 religieux concernés qui veulent rester en France doivent obligatoirement changer de statut, devenir salariés de leur mosquée. Encore faut-il, Farida Noir, que ces lieux de culte aient les moyens de les garder.
Abdallah Zekri attend maintenant une réponse de la préfecture pour obtenir un titre de séjour pour l'imam détaché qui officie depuis 2021 dans la mosquée de la Paix à Nîmes où il est recteur. Il a envoyé le contrat qu'il a signé avec lui, prouvant qu'il est désormais salarié du lieu de culte. Mais pour Abdallah Zekri, qui est aussi vice-président du Conseil français du culte musulman, garder son imam est un budget conséquent.
On ne demande pas de l'argent aux pays étrangers. Nous, on fait une cotisation une fois par mois. Il y a les fidèles qui donnent un don. Et ce don-là, normalement, il nous sert à payer les factures d'électricité, les factures d'eau, les charges de la mosquée. Donc ces charges-là vont être naturellement augmentées si on prend l'imam en charge.
Le garder coûte donc cher, mais rester, c'est aussi une perte financière pour l'imam. Car la mosquée ne peut lui verser qu'un salaire de 1500 euros au lieu des 2650 euros par mois qu'il touchait en tant que fonctionnaire payé par l'Algérie. Mais toutes les mosquées ne peuvent pas se le permettre.
Il y a des mosquées plus petites qui ont des imams détachés et ça je peux vous certifier qu'ils ne peuvent pas les prendre en charge, donc ils ne peuvent pas les garder parce qu'il n'y a pas assez de fidèles et ils ne peuvent pas se permettre de récolter tous les mois 3000 euros, c'est assez difficile.
En France, une grande partie des imams qui interviennent dans les mosquées restent des bénévoles.
Il est 6h08 en Grèce, une mauvaise surprise pour les touristes en ce 1er avril.
Oui, visiter l'Acropole, le monument le plus célèbre du pays, va coûter beaucoup, beaucoup plus cher. Les prix des billets vont être progressivement multipliés par 3 dans l'année à venir et donc à partir d'aujourd'hui. Et au-delà du rocher sacré qui veille sur Athènes, tous les sites archéologiques grecs sont concernés, Angélique Kourounis.
C'est une grosse augmentation, mais si c'est pour pouvoir continuer de restaurer...
L'augmentation est trop importante, ça aurait été 10 ou 15, ok, mais 30 euros, ça fait trop.
30 euros, c'est cher, mais un si beau monument, c'est sûrement très coûteux à entretenir.
Au pied de l'Acropole, les avis sont partagés. Le billet d'entrée sur le site passe de 10 à 20 euros dans un premier temps, puis à 30 euros, soit plus que la simple visite du château de Versailles. Pour Robert, autrichien, qui fait la queue avec des dizaines d'autres visiteurs devant les guichets, cette mesure est injuste.
10 euros, je trouve que c'est un prix très abordable.
Et avec le nombre de visiteurs, je pense que ça devrait assurer la gestion du site. À 30 euros, par contre, là, ça risque d'exclure pas mal de monde.
Tous les billets des sites archéologiques du pays seront augmentés en fonction de leur importance et le pass qui permettait d'en visiter plusieurs pour un prix réduit sera supprimé, tout comme la réduction pour les plus de 65 ans. Une réforme justifiée par le ministère de la Culture, car cela fait des années que ces billets d'entrée n'ont pas été augmentés. Athènes, Angélique Couronis pour France Inter.
Enfin, prenez de l'avance ou votre mal en patience sur la route des retours de ce long week-end de Pâques. La journée est classée rouge par Bison Futé sur le quart nord-ouest, orange dans le reste du pays. Il vous est conseillé de rejoindre l'Île-de-France avant 14h et d'éviter en fin d'après-midi les autoroutes A10, A7 et A43.
Alexis Morel, à présent, s'intéresse à un homme qui plaque le rugby pour vivre son rêve américain. Bonjour Nicolas Perronnet.
Bonjour Mathilde.
Vous consacrez l'Esprit Sport à Louis Rhys Zamit. Son histoire agite le monde du foot américain.
Oui, car un rugbyman qui tente la reconversion en NFL, la plus grande ligue sportive du monde. Hein. Forcément, ça intrigue, surtout quand il s'agit d'une star du rugby. 23 ans, 42 sélections avec le Pays de Galles, et encore plus lorsque la destination s'appelle Kansas City. L'équipe des Chiefs, un vainqueur du Super Bowl, c'était il y a un mois, l'équipe qui a officialisé ce contrat ce week-end avec cette vidéo du joueur.
Hi Chiefs Kingdom, Louis Rhys Zamit here. Just signed, can't wait to go and see you all at Arrowhead.
Voilà, Louis Rhys Zamit qui donne rendez-vous à Arrowhead. C'est le stade de Kansas City où depuis, évidemment, les fans ne parlent que de ça.
Pourquoi change-t-il de sport si jeune à 23 ans?
L'aspect financier, hein, évidemment. Les salaires dans le foot américain sont largement plus élevés que dans le rugby. Mais pas seulement. Son histoire familiale aussi a également pesé. Hein. Son père était lui-même joueur de foot américain au Royaume-Uni.
Mon père a toujours été un immense modèle pour moi. Je veux être capable de faire ça pour lui. J'espère aussi inspirer beaucoup de gens chez nous à entreprendre ce voyage, montrer la voie aux joueurs internationaux.
Voilà, le chemin va être encore long. Hein. Louis Rhys Zamit va devoir faire sa place. Déjà en équipe première, c'est pas gagné. Lui qui devient le 37e joueur de NFL issu du programme mondial des talents. C'est un système de repérage qui permet ce genre de passerelle pour les non-américains.
Et on passe facilement du rugby au football américain.
Non, malgré les apparences, les deux disciplines n'ont absolument rien à voir. Il y a plus d'échecs que de succès. L'Australien Jared Hayne ou plus récemment le Britannique Christian Wade en sont des exemples assez frappants. Mais avec Louis Rhys Zamit, c'est la première fois que la NFL attire une star de ce calibre-là. Après avoir tenté sans succès des approches dans le passé avec John Alomu, Johnny Wilkinson ou encore Dan Carter.
Louis Rhys Zamit, d'un ballon ovale à un autre, c'était l'Esprit Sport de Nicolas Perronnet.